Vous êtes sur RTL.
Considéré comme un rival de Michael Jackson, le Kid de Minneapolis a essayé par tous les moyens de se démarquer. Il avait commencé une série de concerts. Devant ses studios, ses fans ont du mal à croire à son décès. Il n'avait que 57 ans.
Comment Prince est devenu Prince? Belle question, oui, je trouve qu'elle est pas mal.
Oui,
bonjour Raphaël Melki.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes spécialiste de Prince, responsable depuis 25 ans du principal site français consacré à l'artiste. Copie.com, c'est un rapport
Exactement. Avec
la carrière, ce mot étrange.
Ce mot étrange n'a pas un rapport direct avec sa carrière.
Mais avec la vôtre, avec votre histoire.
On peut dire ça.
Prince est mort le 21 avril 2016 à 57 ans. Combien d'années de carrière et quelle est l'œuvre qu'il laisse derrière lui? Combien ça pèse?
Pour faire court, on va dire que c'est 40 ans de carrière, 40 albums pour lui, plus ceux qu'il a produits pour d'autres artistes, et des centaines de chansons.
Et puis avec cet événement, ces mémoires posthumes qui sont sorties la semaine dernière, ça s'appelle Prince, The Beautiful Ones, Mémoires inachevées, c'est chez Robert Laffont. Pourquoi c'est un événement? Est-ce qu'il se livre beaucoup, Prince, dans ce livre? Est-ce qu'il révèle, des secrets de fonctionnement, d'enfance, de génie?
Alors comme vous l'avez dit, le titre est Mémoires inachevées, donc il se révèle, pas assez, mais en tout cas dans les pages qui sont présentées dans ce livre, il se révèle. Il se révèle aussi beaucoup dans le rapport qu'il a avec son co-auteur qui fait plus qu'une préface, qui fait une très longue introduction et où il évoque un peu le travail, le making-of de ce livre. Donc en fait, ce qu'on apprend dans ce livre, c'est la manière dont Prince a travaillé pendant les derniers mois de sa vie et ensuite son enfance et ses premières années.
Et on a plein d'anecdotes, plein d'histoires à découvrir sur la vie de Prince. Une signée Eric Jean-Jean, l'ami Eric, qui va nous dire pourquoi...
Ne me regardez pas dans les yeux,
Thomas. Voilà, c'est ça, faut pas le regarder dans les yeux, Prince.
Ça suffit maintenant.
À tout de suite.
Paris. La curiosité est un vilain défaut.
Prince faisait l'objet auprès de son public d'un véritable culte.
RTL.
Prince travaillait surtout au début complètement seul. Il était multi-instrumentiste. Son premier album, il l'a enregistré tout seul de A à Z.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Avec Soft and Wait, si je me trompe pas, c'est le premier tube de Prince, le tout premier, c'était sur son premier album. Alors, on raconte la vie d'un prince sur RTL avec Raphaël Melki, spécialiste de Prince. Je dis un prince parce que c'est vrai qu'il avait un peu une réputation de diva. D'ailleurs, dans les couloirs, on a croisé Eric Jean-Jean. Il a partagé avec Bastien Robin, notre journaliste, un souvenir qui date de 2009. Écoutez.
C'était dingue. Il avait demandé à ce qu'il y ait des paravents, il voulait croiser le regard de personne. Puis il arrive dans mon studio et je lui tiens la porte et je lui dis bonjour. Il met un vent absolument insensé, il va s'installer, il joue. Puis au bout d'un moment, il avait répété dans le grand studio et puis il me fait à l'équipe technique, il fait « Are we ready to record ? Est-ce qu'on est prêt à enregistrer ?» Et là, il y a le manager qui me dit « Mec, si tu vas pas tout de suite faire rentrer ton public, au fait, il va jouer tout seul, il va se casser. » Donc je cours, on ouvre les portes, donc du coup, il n'enregistre pas tout de suite, il continue à accorder ses guitares et tout. Et puis le concert commence, il nous a fait 15-20 minutes à peu près. Il a dit « Mais vous avez payé pour venir ?» Alors, non, moi je joue pas gratuitement, je vais faire passer un petit chapeau pour gagner des sous, etc. » Puis tout le monde rigole, c'était dingue.
Bon, en fait, il n'a pas fait passer de chapeau, c'était l'humour de Prince. Raphaël Melki, ça vous étonne? Il avait pris un peu la grosse tête, Prince?
Non, ça fait partie de la légende. C'était quelqu'un d'assez inaccessible, mais plus par timidité que réellement par...
Donc il ne salue pas l'ami Eric Jean-Jean, c'est parce que...
Non, c'est vrai, ça se passe. Et... Mais c'était un très bon souvenir. On était là, effectivement, on est rentré à la hâte et cette performance ici... Ouais, cette performance ici était un beau souvenir.
Parce que ce qui était dingue dans cette salle, c'est la proximité aussi. C'est Prince à quelques mètres de...
On est rentré dans les premiers, je me rappelle, je me suis assis en face de lui et il m'a dit « Tu veux pas reculer d'un ou deux rangs, tu me laisses des jolies filles devant. »
Voilà,
si vous voulez
ça,
la
Prince
fin de l'anecdote.
Il vous a dit ça?
Véridique, je vous assure.
Il vivait comment?
Partir dans des délires de stars, comme vous dites, ou de monter un ranch avec des manèges. Il a plutôt monté un complexe qui lui a permis de travailler, donc un immense studio qui lui permettait d'être totalement libre sur la conception des albums, sur la réalisation des films, même sur la création de ses costumes, etc. Donc il a plutôt œuvré tout le temps à produire de la musique et à faire de la musique. C'est pour ça qu'il était finalement assez peu dans les journaux People, parce qu'il intéressait... peu les gens sur sa vie privée.
Et l'un de ses plus grands, plus gros tubes, c'était 1991 avec ce titre, Creep.
Creep, get on down, creep, you will come.
Ça, c'était une gueule, un look, c'est vrai. Et il l'a adopté vite dans sa carrière, ce look d'androgyne sexy.
Alors, androgyne sexy, je ne sais pas si c'était androgyne. Ce qui est sûr, c'est qu'il a accepté sa féminité très tôt.
Ouais.
Et il ne se posait pas de questions, en fait. Est-ce qu'il voulait porter des bas ou pas de bas? Est-ce qu'il voulait se maquiller ou pas? Ce n'était pas vraiment une question si ça lui convenait et si ça correspondait à ce qu'il voulait raconter et être. À ce moment-là, il le faisait. Il l'a surtout beaucoup chanté, en fait, ce rapport au genre ou justement à ne pas se poser de questions.
Purple Fame, c'est le titre de la bio que vous avez publié, Raphaël Melki, chez Renaissance du Livre. On continue de raconter le destin de ce musicien de génie qui excellait au piano alors que son père lui avait interdit d'y toucher. On vous explique pourquoi tout de suite. Restez avec nous les curieux sur
10-10.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous êtes un des meilleurs guitaristes au monde.
Ça fait quoi d'être Prince aujourd'hui?
Vous aimez la cuisine française? Votre travail est génial.
Les curieux sont sur RTL.
Qui a le droit de critiquer votre musique aujourd'hui?
Non, personne.
Les secrets de Prince alors que sortent ses mémoires inachevées. On est avec Raphaël Melki, grand fan, grand spécialiste de la carrière de Prince. Sidonie disait en ouverture de cette séquence dans l'émission, dans la curiosité, comment Prince est devenu Prince. Il s'est créé un personnage très tôt dans sa vie ou c'est venu assez tard finalement?
Je pense que ce qu'il était a créé son personnage. Il y avait une envie et un besoin vital et viscéral de faire de la musique qui arrivait assez tôt. On le ressent dans le livre, encore une fois, que ce soit dans l'introduction de son co-auteur ou dans ses premières pages, tout est déjà musique, tout est transformé en musique. Il dit le premier son dont je me souvienne, c'est le piano de mon père. Donc voilà, il est vraiment là-dessus. Et son premier disque, comme vous le disiez, est intégralement composé, enregistré, produit, joué par lui. C'est-à-dire qu'il a pris l'ingénieur du son, il l'a mis dehors, il a tout fait seul. Et ça, dès le début. Et ça contribuer à sa légende.
On va reparler évidemment de ce fameux piano du papa de Prince qui était jazzman décidément. Mais avant, dans quelle famille il naît le 7 juin 1950.
Et films qui vont le propulser là aussi dans une autre dimension.
Toute une banque pour vous.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La vie est faite de hauts et de bas. Tout dépend comment vous réagissez à ces événements.
Sur RTL.
Il y a un problème aujourd'hui en Amérique pour vendre des CD. Ils veulent contrôler ce qui devient populaire ou ce qui ne l'est pas.
La curiosité est un vilain défaut.
Il y a juste pour l'instant un système qui ne m'excite pas du tout. Alors on s'en tient au concert et on continue de faire la musique de cette façon.
Prince qui aimait la scène évidemment, 40 ans de carrière, 40 albums, 100 millions d'albums vendus, et c'est Raphaël Melki, spécialiste de l'artiste, qui nous raconte son destin et ce succès extraordinaire. On est dans les années 80-84. Raphaël Melki, c'est son plus grand tube à Prince. C'est un film et une chanson. Qu'est-ce que raconte ce film? Il se livre déjà avant ses mémoires posthumes?
Oui, alors, beaucoup de questions en une. Le film est semi-autobiographique, c'est-à-dire qu'on voit un jeune homme plein de tourments, avec des parents qui se chamaillent beaucoup. Et on découvre, en fait, dans le livre qui vient de sortir, les prémices de ce scénario où la tension entre les parents est centrale, puisque c'est même assez dramatique. La mère tue le père avant de se tirer une balle dans la tête. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez fort. Et les mémoires qui viennent d'être publiées racontent vraiment cette relation et l'importance qu'avaient ses parents dans sa vie et la manière dont cette séparation a été centrale dans tout ce qui
a aidé à se réaliser, c'est ça, Prince?
Oui, la séparation est vraiment au centre. Il y a une citation assez brève de son co-auteur qui dit « Prince cherchait à me faire comprendre qu'il constituait la synthèse de ses parents. Leur conflit vivait en lui. Il entendait dans leur discorde une étrange harmonie qui lui avait donné envie de créer. Son père et sa mère et la manière dont il incarnait leur union et leur désunion lui inspiraient admiration et lucidité. » Ça complètement tracé sa carrière.
C'est Mémoires inachevées, hein, c'est le livre qui sort et c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui.
Melki dans Purple Fame, publié chez Renaissance du Livre. Il y a votre site aussi, scopy.com. On apprend plein de choses aussi. On entend, on écoute Prince et puis ses mémoires posthumes chez Robert Laffont.
Voilà, c'est la fin.